allons tenter de stabiliser une économie instable, comme le propose le titre de notre ouvrage du jour, signé Iman Minsky. Un programme ambitieux pour un livre qui ne l'est pas moins. L'économiste américain cherche à démontrer que la finance capitaliste est intrinsèquement instable. Voilà pourquoi cet ouvrage, paru en 1986, a connu un regain de popularité au moment de la crise de 2008. Et c'est Laurence Cialom qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à Paris-Nanterre, spécialiste de la régulation bancaire et financière. Alors, lorsque Minsky publie son ouvrage au milieu des années 80, l'hypothèse de l'efficience des marchés financiers est largement dominante et les crises ne sont vues, selon la conception néoclassique, que comme des chocs externes. Alors, comment, dans ce contexte, le livre de Minsky est-il reçu ?
Eh bien, en fait, Minsky, à l'époque... est complètement à contre-courant de la doxa du moment, qui est non seulement l'efficience des marchés, mais aussi les anticipations rationnelles. Et Minsky, lui, est un post-keynésien qui n'a jamais dévié de sa ligne théorique. Et il est obsédé, il le sera toute sa vie, ça structurera tous ses travaux, par l'instabilité intrinsèque du capitalisme qui vient de la finance. Et notamment, c'est l'expérience de la Grande Dépression des années 30 et le décryptage qu'il en fait, qui lui permet en fait de proposer cet ouvrage, mais qui en fait l'achèvement de nombreux autres travaux, articles, mais également une biographie de Keynes et un ouvrage en 82 qui s'intitule « Est-ce que ça peut arriver encore ?» ça étant la Grande Dépression. Et donc, en 86, quand cet ouvrage paraît, il est vraiment perçu comme un oiseau de mauvais augure, comme quelqu'un qui est excessivement pessimiste, alors qu'on est dans une période où, au contraire, on pense que on a trouvé le sésame pour avoir une économie stable, qui alloue correctement les ressources, qui gère correctement les risques. Voilà, les économistes sont aveuglés, ont totalement oublié l'expérience des années 30.
Alors, avant d'en venir un peu plus précisément aux thèses qu'il développe dans son ouvrage « Stabiliser une économie instable », est-ce que vous pourriez, Laurence Cialom, nous présenter Minsky en quelques mots ? Vous avez parlé de Keynes parmi ses influences, il faut aussi citer Schumpeter.
Voilà, c'est ça. Minsky est quelqu'un qui, donc il est né en 1919, il arrive à l'économie par les maths. Il a un bachelor de maths au début des années 40. Ensuite, pendant la guerre, il va travailler un peu avec Leontief. Et puis, il entame une thèse avec Schumpeter. Et Schumpeter décède au cours de son doctorat. Et c'est Leontief qui reprend le flambeau. Les influences intellectuelles revendiquées par Minsky sont Keynes. Mais attention, pas le Keynes de la synthèse. En fait, c'est les travaux de Keynes, généralement, qu'on enseigne aux étudiants la plupart du temps, sont des travaux qui sont une version de Keynes qui a été réinterprété et dont s'est réapproprié la théorie néoclassique. Ce ne sont pas les travaux les plus intéressants, les plus radicaux de Keynes, ceux auxquels se réfèrent les post-keynésiens. Or, Minsky est un post-keynésien et donc c'est ce Keynes-là qui l'intéresse. Et d'ailleurs, il est très intéressant de noter que la première lecture de Keynes qu'a fait Minsky, c'est le traité des probabilités, c'est-à-dire la prise de décision en environnement incertain. Il est d'ailleurs très influencé aussi par Knight, c'est-à-dire par l'incertitude radicale, qui est très différente d'un univers probabilisable, qui est celui dans lequel évoluent les économistes en général.
Alors vous l'avez dit, Laurence Cialom, le système financier d'une économie capitaliste est intrinsèquement instable, selon Minsky, et le mécanisme clé qui pousse une économie vers une crise, c'est l'accumulation de dettes pendant la période de prospérité.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, enfin ce qui est resté célèbre sous le terme de paradoxe de la tranquillité. Ce que nous dit Minsky, c'est que c'est étonnamment dans les périodes très calmes, les périodes où tout va bien, que se constituent progressivement les fragilités financières qui, en fait, vont faire basculer progressivement au cours d'un cycle financier, si vous voulez. Donc, il était très intéressé par les cycles, d'ailleurs, comme Schumpeter. Ce qui est au cœur de cela, c'est le fait que les banques sont des entreprises, il y a une dimension entrepreneuriale dans la banque. Les banques font des innovations financières. Ces innovations financières, finalement, elles consistent à permettent d'avoir davantage de financement pour une même quantité de monnaie centrale. Donc du coup, les innovations financières fragilisent les banques parce qu'en fait, elles se fragilisent au choc de liquidité. Elles entrent dans la crise avec moins de liquidité et moins de capital. Et personne ne s'en rend compte parce que l'augmentation des prix d'actifs durant la période d'euphorie masque complètement ses fragilités. Et ce qui est intéressant dans l'analyse de Minsky, c'est que à la fois les prêteurs et les emprunteurs sont victimes du même aveuglement, des mêmes biais dans les perception des risques, c'est-à-dire qu'on sous-estime considérablement les risques dans la période d'euphorie, et puis au contraire, au moment du renversement, on les surestime d'une certaine manière, puisqu'on discrimine plus non plus entre les emprunteurs.
Et c'est en cela que Minsky donne des clés pour décrypter la crise de 2007-2008.
Tout à fait, et notamment la titrisation financière, c'est exactement ça. La titrisation financière permet de sortir du bilan des actifs peu liquides et de les transformer en actifs liquides par un véhicule de titrisation, se faisant la banque avec un même capital peut de nouveau financer l'économie. Et donc ça participe à cette accumulation d'endettement dans le secteur privé et dans le secteur financier en même temps. Les banques font les mêmes erreurs que leurs emprunteurs au même moment. Elles-mêmes s'endettent à l'excès, et donc ça veut dire qu'elles ont trop de dettes et insuffisamment de capital, au même moment qu'elles contribuent au surendettement du secteur privé.
Alors on va revenir sur l'intervention de l'État et notamment de la Banque centrale sur laquelle il insiste beaucoup. Mais d'abord, ce qu'il faut peut-être dire, Laurent Sialam, c'est que la pensée de Minsky est hantée par la crise de 29, à tel point que ses détracteurs ont estimé qu'il était resté bloqué dans les années 30. Alors qu'en pensez-vous ?
Il est vrai que lui estimait que la théorie économique ne peut être valide que si elle est capable d'intégrer dans son champ et dans son analyse, le fait que le système capitaliste puisse disparaître du fait même de ses contradictions internes et ses dynamiques endogènes internes au capitalisme. Et donc, effectivement, il essaye de construire une théorie économique qui rend possible un événement comme la crise des années 30. Ce qui ne veut pas dire qu'il est fataliste en se disant « on peut rien faire ». Non, non, il a aussi une idée sur ce qu'on peut faire. Mais ce qu'il dit, c'est que laissé à lui-même, le capitalisme, notamment quand une finance est insuffisamment réglementée et que les banques et les marchés se font concurrence, eh bien, laissé à lui-même, ça génère des cataclysmes qui peuvent être aussi importants que celle des années 30.
Alors un cadre réglementaire, en l'occurrence, a été mis en place aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est cela qui, selon Minsky, a permis cette stabilité de cette période entre 1946 et 1966.
Tout à fait. Minsky dit que c'est vraiment les contraintes réglementaires, institutionnelles, les nouveaux cadres institutionnels, le fait qu'on a démantelé un certain nombre d'oligopoles au niveau en termes financiers, le fait que les banques soient contraintes dans leur activité, qu'on ait limité la concurrence entre banques et marchés, etc. Que c'est ce qui a permis cet épisode exceptionnel. Lui, le périodise entre 46 et 66, de très très grande stabilité financière, oui.
Et en même temps, pendant la même période, la part des liquidités détenues par les banques diminue de manière continue, selon Minsky.
Bien sûr, et c'est justement les innovations financières. C'est bien ça, et c'est là qu'il est excessivement visionnaire. C'est qu'il est capable de percevoir les signaux faibles de ce qui va devenir une crise cataclysmique. C'est-à-dire, il est capable de voir, alors que franchement, ce sont des petites crises qu'il étudie au début de son ouvrage, comparées à celles qu'on a connues rétrospectivement. Mais les dynamiques qu'il met en exergue, c'est-à-dire le fait que ces innovations financières, elles ont toujours en commun, par la recherche du profit des banques, d'accroître les offres de financement à offres de monnaie centrale donnée, et donc en fait de fragiliser les banques, eh bien ça, il l'analyse sur tout un tas d'innovations financières qui effectivement ont en commun cela, et la titrisation étant la dernière, qu'il a d'ailleurs beaucoup analysé entre 86 et sa mort. Et donc vraiment, il donne vraiment toutes les clés. C'est dramatique qu'il n'ait pas pu voir à quel point il avait raison.
Et alors justement, à quoi ressemblerait notre système financier si on s'était inspiré de Minsky, Laurence Sialam ?
Alors si on s'était inspiré de Minsky, déjà, on aurait fait de la régulation macro-prudentielle bien avant la période récente. C'est celle qui s'attache à gérer les risques financiers et prévenir les risques financiers globaux. C'est-à-dire maîtriser le cycle financier. Donc éviter que les périodes d'euphorie soient telles que l'on ait des excès d'endettement qui vont rendre la crise d'autant plus grave quand on bascule dans la déflation par la dette, dans la période récessive. D'autre part, si on était une régulation financière Minsky compatible, donc on essaierait d'atténuer le cycle financier, mais probablement aussi on s'attaquerait aux grandes banques systémiques, c'est-à-dire la deuxième grande source de risque systémique, parce que Minsky était très clair là-dedans, il y a un chapitre 13 qui traite des réformes. Et pour lui, ce qu'il faut préconiser, c'est un système bancaire avec beaucoup de petites banques qui sont beaucoup plus aptes à financer, notamment les tissus de PME. Et là, on voit bien à quel point on est très, très loin des préconisations actuelles, puisque c'est exactement l'objectif de la Commission européenne actuelle. Et que fait la Commission européenne actuelle pour essayer de relancer le financement des PME? Eh bien, elle dit qu'il faut relancer la titrisation. Donc, précisément, qu'a dénoncé et qu'a décrypté Minsky comme étant une source d'instabilité financière. Alors, une autre préconisation de Minsky, ça serait d'aller vers un système financier où on se finance davantage par fonds propres et moins par la dette. Alors ça aussi, c'est très intéressant parce que il y a plein de travaux académiques aujourd'hui, les travaux de la BRI également, hein, qui montrent que l'excès de financement par la dette des ménages et des entreprises, ça pèse sur la croissance et ça augmente l'instabilité financière. C'est exactement le message de Minsky. Or, aujourd'hui, nos économies sont toujours, il suffit de regarder les chiffres, hein, sont toujours dopées à la dette, hein, d'une certaine manière. Donc, on est toujours face à ce risque d'une crise, d'un Minsky moment, c'est-à-dire d'un effondrement des prix d'actifs et d'un basculement dans la déflation par la dette. Hein. Et notamment parce que on a des dispositifs fiscaux qui favorisent l'endettement, c'est-à-dire notamment tout ce qui relève de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Malheureusement, les décideurs politiques restent très attentifs aux intérêts des lobbies bancaires qui, évidemment, n'ont pas intérêt à cela. Hein. Et on retombe sur l'analyse de Minsky, à savoir que la banque est une entreprise qui, par la recherche du profit, va se fragiliser elle-même par les innovations financières qu'elle va promouvoir.
Et dans ce contexte, Laurent Cialhomme, quel rôle peuvent jouer les banques centrales selon Minsky?
Alors, ce qui est très également intéressant, c'est que Minsky nous dit également, donc il y a deux stabilisateurs de l'économie, que sont ce qu'il appelle le big government, c'est-à-dire la surface de l'État, hein, qui est capable de soutenir la demande quand il y a une crise, et également la banque en tant que prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire quand les marchés se gèlent, quand plus personne ne veut prêter à personne, la banque centrale peut intervenir. Donc, dès le début de l'ouvrage, il reconnaît ça. Mais en même temps, il nous donne un message que nos banquiers centraux devraient méditer. C'est que quand les gouvernements et les banques centrales gèrent une crise et permettent de la passer sans douleur ou sans trop de douleur pour l'industrie financière, en fait, d'une certaine manière, ils valident les comportements antérieurs et ça va rendre la crise financière plus grave, la suivante.
Une dernière question, Laurent Cialhomme. Vous disiez de Minsky que c'était un économiste post-keynésien, oui. Mais là où il se distingue de Keynes, c'est dans sa conception du déficit budgétaire et des politiques de redistribution. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose aux aides sociales?
Tout à fait. Et c'est en ça que c'est un post-keynésien un peu atypique. Hein. Sa position n'est pas de dire il faut faire du contracyclique, ce qu'on appelle du fine-tuning, etc.
Pourquoi ça consiste, le contracyclique?
Alors, c'est contracyclique, c'est-à-dire qu'il faut que en gros, quand il y a un déficit de demande, l'État laisse filer les déficits et surtout, il s'opposait au fait que ce soit par l'investissement qu'il faille relancer la croissance. Lui croyait beaucoup en fait en un État qui serait moins un État providence au sens où on l'entend aujourd'hui, donc avec des transferts sociaux, mais plutôt un employeur en dernier ressort, c'est-à-dire que l'État offre une garantie d'emploi. Et là, il se référait beaucoup à des réformes qui ont eu lieu au moment du New Deal. Parce qu'il disait qu'en fait, de cette manière, ça soutiendrait la croissance par la consommation, ce qui est beaucoup plus stable. En plus de ça, ça renforce la dignité de ceux, c'est des traitements plus dignes. Lui pensait que l'action de l'État devait être employeur en dernier ressort et puis créer ces cadres institutionnels qui permettent de maîtriser la finance et les cycles.
Merci beaucoup Laurent Cialhomme d'être passé dans nos studios aujourd'hui. Stabiliser une économie instable d'Ayman Minsky est paru aux éditions Les Petits Matins. Et je rappelle pour les auditeurs que vous êtes co-auteur, Laurent Cialhomme, de ce rapport de Terra Nova paru en septembre dernier, intitulé « 10 ans après, bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008, avancées, limites et propositions ». Un grand merci.